Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans mon cœur, je porte un poids, c'est le poids des discriminations, des ségrégations et des mauvais traitements subis par votre communauté. L'histoire nous dit que même les chrétiens, même les catholiques ne sont pas étrangers à ce mal, à tant de mal, pardon, je voudrais demander pardon pour cela. Voilà les mots que le pape François a prononcés récemment devant la communauté Rome à l'occasion d'un voyage apostolique en Roumanie. Une demande de pardon qui s'inscrit dans les nombreux actes de repentance de l'Église, commencés spécialement depuis le jubilé de l'an 2000. Mais la vie de l'Église dans le monde, c'est aussi la réaction du Saint-Siège aux élections européenne, la prochaine journée mondiale des migrants ou les questions au long cours, si l'on peut dire, du dialogue avec l'islam ou de la lutte contre les actes de pédocriminalité dans l'Église. L'actualité de l'Église universelle, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau, fidèle au rendez-vous, Nicolas Senez, journaliste au journal La Croix et correspondant de ce journal à Rome, Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, et Jean-Miguel Garrigue, prêtre religieux dominicain et théologien. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, je vous ai pas donné la parole les uns derrière les autres, comme ça on commence par un concert de bonjour. On va commencer avec vous, Nicolas Senez, puisque vous rentrez tout juste du voyage du pape François en Roumanie. Vous allez donc nous raconter ce voyage que peut-être certains ont suivi via KTO ou d'autres journaux, comme le journal La Croix, évidemment. Pour commencer, ce voyage donc qui a commencé le 31 mai pour 3 jours. Dans ce pays, on va dire tout à l'est de l'Europe. Comment vous résumeriez de quelques mots, quelques phrases, l'enjeu de ce voyage avant que l'on se plonge dans les détails ?
Il y avait deux enjeux. Il y avait d'abord une nouvelle rencontre du pape avec l'orthodoxie, hein, avec le patriarcat de Roumanie, qui est un des poids lourds de l'orthodoxie en Europe. Et puis, plus largement, c'était un voyage à destination de l'Europe, hein, puisque la Roumanie, jusqu'à la fin du mois, préside l'Union européenne. Et c'était l'occasion pour le pape de venir rencontrer ce pays à la grande diversité culturelle, ethnique, religieuse. Et peut-être de parler aussi plus largement de cette diversité culturelle et ethnique de l'Europe. Et de faire finalement l'éloge de cette diversité à un moment où l'Europe, justement, se pose beaucoup de questions sur son avenir, sur cette façon de vivre la diversité.
Voilà, et en effet, on reviendra sur un certain nombre de déclarations qui, au lendemain des élections européennes, n'étaient pas sans intérêt. Si on devait commencer par présenter un petit peu la Roumanie, pour ceux qui ne la connaissent mal, dans un supplément du journal La Croix, daté donc du week-end dernier, samedi et dimanche 2 juin, sous la signature d'un de vos confrères, Pierre Cochet, il y a une description de la Roumanie, et surtout des chrétiens de Roumanie. 80% des 22 millions de Roumains sont orthodoxes, mais vit là-bas une communauté, je crois, de plusieurs centaines de milliers de catholiques, les Grecs catholiques. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama religieux du pays ?
Oui, voilà, c'est donc une forte majorité orthodoxe, une grosse minorité catholique qui est divisée aussi en deux rites. Hein. Il y a un nombre important de catholiques latins. Hein, donc, qui ont la messe occidentale, telle que nous on peut la connaître dans nos paroisses en France, qui sont principalement dans la région de Bucarest et surtout en Moldavie, donc c'est la partie nord-est de la Roumanie, tournée vers l'Ukraine et la Russie. Et puis il y a dans la région de ce qu'on appelle la Transylvanie, donc qui est de l'autre côté des Carpates, plutôt tournée vers la plaine hongroise, une communauté petite qu'on appelle gréco-catholique, donc qui sont dans des catholiques de rite oriental, mais unis à Rome. Et c'est une communauté qui a été extrêmement persécutée à partir de 1948, au moment où le pouvoir communiste a interdit cette église pour l'intégrer de force dans l'église orthodoxe. Et ça a été vraiment une blessure extrêmement forte pour ces catholiques qui ont vraiment... il y a eu vraiment des martyrs. Le pape a béatifié 7 évêques de cette église qui avaient refusé justement la disparition de leur église et qui sont morts dans des conditions extrêmement dures, parfois de faim, de froid, dans les prisons roumaines pour avoir refusé de rompre le lien avec Rome. Donc ça, c'est une église qui a eu le droit de retrouver le droit de cité après 1989 et la chute du communisme, mais qui a encore du mal à exister, parce qu'un nombre de ses fidèles intégrés de force à l'Église orthodoxe sont pas forcément revenus dans l'Église catholique. Et puis, le problème de la restitution de tous les biens qui ont été confisqués, en particulier des églises, reste aussi une blessure compliquée avec l'orthodoxie.
Si on doit regarder l'état du christianisme et de la pratique religieuse, de la foi en Roumanie aujourd'hui, on découvre au long des articles que l'on a pu lire entre autres dans le journal La Croix au long de ce voyage apostolique, que la Roumanie, contrairement peut-être à l'idée qu'on pourrait s'en faire, est traversée par les mêmes difficultés que certaines églises occidentales, de moins en moins de jeunes et des têtes de plus en plus grisonnantes dans les églises.
Oui, alors il y a encore une pratique relativement forte. C'est vrai que du côté des jeunes en particulier, même s'il y a encore dans l'Église roumaine un certain nombre des vocations encore assez nombreuses, l'attitude de l'Église orthodoxe vis-à-vis des évolutions de la société fait qu'un certain nombre de jeunes roumains ont tendance à s'éloigner, alors pas forcément de la foi, mais plutôt de, on va dire, de l'Église institutionnelle. Et donc ça, c'est un des défis aujourd'hui de l'Église roumaine. Et en même temps, moi j'étais très frappé par le fait que dans les rues, on a vu beaucoup de monde qui accueillait le pape. Dans les célébrations, il y avait vraiment du monde, il y avait tous les âges. Et ça aussi, c'était quelque chose d'assez frappant dans ce voyage.
Alors, quid de l'unité entre ces chrétiens? L'un des enjeux, semble-t-il, était de que le pape François contribue à cette unité. Il y a eu une rencontre donc avec le patriarche roumain de Bucarest, Daniel, donc à la tête du, vous l'avez dit un peu plus tôt dans l'émission, donc de la deuxième, je crois, plus grande communauté orthodoxe dans le monde après la communauté reliée au patriarcat de Moscou. Ces chrétiens, ils cohabitent de manière sereine. Il y a des ponts que peut-on dire sur ce sujet?
On va dire au niveau des croyants, ça se passe plutôt bien. Au niveau de la hiérarchie, ça reste compliqué à certains endroits. Il y a eu des grosses avancées au moment de la visite de Jean-Paul II en 1999, où pendant une messe que célébrait Jean-Paul II à Bucarest, en présence du patriarche à l'époque Théoctiste, qui était donc le prédécesseur du patriarche Daniel, où la foule roumaine, de façon complètement spontanée, a lancé un cri « Unité, unité !» et qui finalement ont essayé de pousser finalement leurs responsables à avancer plus loin sur le chemin de l'œcuménisme. Ensuite, il y a eu des difficultés, justement dues par exemple à la restitution des biens à l'Église gréco-catholique. Il y a eu des gestes peut-être trop avancés de la part de certains hiérarques, par exemple orthodoxes, ils sont allés demander la communion à leurs collègues catholiques, peut-être de façon trop rapide, et ça a posé de gros problèmes, au point qu'il y a finalement une certaine tiédeur de l'Église orthodoxe vis-à-vis de l'œcuménisme, aussi par le fait qu'elle est aujourd'hui bousculée par les évolutions de la société, on en parlait tout à l'heure, donc avec un tendance à un certain repli. En même temps, on a vu ici, en particulier lors de la rencontre entre le pape et le patriarche, qu'elle était extrêmement chaleureuse, hein, ça tranchait complètement avec ce qu'on a eu 3 ou 4 semaines plus tôt quand le pape François était allé en Bulgarie, où il a vraiment eu un accueil absolument glacial de la part des orthodoxes. Là, c'était pas du tout le cas. Et il y a eu une vraie complicité, une vraie amitié entre les deux hommes. Il y a eu aussi, ce qui n'avait été pas possible en Bulgarie, hein, une prière dans la cathédrale orthodoxe de Bucarest.
Prière séparée, par contre, vous pouvez expliquer?
Alors,
ça
c'était une prière où ils étaient ensemble, mais pas ensemble pour prier. C'est-à-dire que le pape et le patriarche ont récité le Notre Père, mais l'un après l'autre, et il n'avait pas été possible qu'ils le récitent en simultané. Ceci dit, le pape nous a confié dans l'avion, au retour, que lui-même, quand le patriarche avait prié le Notre Père en roumain, lui silencieusement l'a prié en italien.
Et d'ailleurs, excusez-moi, donc, juste que dans cette conférence de presse dans l'avion, le pape François commente un petit peu cette apparente division de manière assez désarmante, en disant que il y avait, on va dire, les réalités diplomatiques et celles du peuple. Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce commentaire qu'il a fait?
Ce que je vous ai expliqué, hein, c'est que on a bien senti que les fidèles eux-mêmes étaient peut-être souvent plus avancé sur la question du dialogue, ou en tout cas peut-être plus pragmatique. Et le pape François à finalement valider ce pragmatisme en disant, ben voilà, les fidèles finalement nous poussent à aller plus loin que nos prudences diplomatiques, et il faut l'entendre, même si bon ben on avance pas à pas, mais on doit écouter cette voix du peuple finalement qui nous pousse.
J'aimerais maintenant qu'on revienne donc sur cette demande de pardon. Je demande pardon au nom de l'Église, au Seigneur et à vous, a dit le pape François lors d'une rencontre avec la communauté rome. C'était donc à Blage. Quelle est l'importance de cette demande de pardon? Est-ce que ça fait partie des grandes demandes de pardon de l'Église dont on a vu et entendu entre autres depuis le jubilé de l'an 2000, Nicolas Sonnez?
Ah, clairement, c'était clairement une repentance, hein, le pape a dit, hein, je demande au Seigneur et à vous, au nom de l'Église, pardon pour toutes les fois où vous avez été discriminés, pour toutes les ségrégations, pour toutes les fois où on vous a regardé de travers. C'était très important. Moi, j'étais avec la communauté rome, à ce moment-là, on n'était que quelques journalistes à pouvoir suivre le pape dans ce rendez-vous. C'était vraiment un moment très émouvant, c'était un moment très fort pour les Roms qui étaient là, parce que c'était la reconnaissance, enfin, par une église, par une institution, des difficultés qu'ils ont vécues, qu'ils vivent encore. Moi, j'étais très frappé, hein, pour eux, c'était vraiment que le pape vienne dans leur toute petite église, visiter leur toute petite communauté, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, quoi. Pour eux, voilà, c'était un des hommes les plus importants du monde, disait-il, vient se pencher sur notre petite église, notre petite communauté, et ils en étaient extrêmement touchés, émus, au point que, par exemple, il y avait une petite chorale qui attendait le pape, qui devait chanter au moment de son arrivée, et finalement, ils étaient tellement émus qu'ils ont oublié de commencer le chant. Donc, voilà. Et ces paroles-là, ça a été une façon de reconnaître que bien l'Église gréco-catholique s'occupe, hein, des Roms depuis assez longtemps. Hein. Par exemple, un des évêques martyrs qui a été béatifié par le pape le matin même était connu pour avoir beaucoup travaillé auprès des Roms pour leur intégration. Mais on sent des résistances, que ce soit de la part des fidèles ou de la part évidemment des autorités qui regardent ça de très haut et ne voient pas forcément l'intérêt, en gros, de dépenser de l'argent pour ces gens-là. Et ça, c'est quelque chose que le pape vienne dire, oui, que c'est bien que l'Église continue à être présent auprès des Roms et que je viens de demander pardon pour aussi tous les chrétiens qui n'ont pas voulu rentrer dans ce chemin d'intégration, était extrêmement important pour eux.
Pour finir, Nicolas Sonnez, est-ce que vous pouvez nous parler d'une rencontre qui a eu lieu dans un sanctuaire marial où le pape François, on l'a dit, donc au lendemain des élections européennes, dans un pays qui est quand même traversé par des tentations, on va dire, nationalistes, si j'ai bien compris, voisin de la Hongrie, le pape François a continué à avancer, hein, l'un de ses leitmotivs, créer des ponts, faire en sorte que, donc, je cite, ce peuple dont les mille visages, culture, langue, tradition et richesse soit un symbole de dialogue, d'unité et de fraternité. Il a surpris sur ce sujet, et qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler de l'essentiel de ses propos?
Oui, il a surpris parce que il était donc samedi après-midi en Transylvanie, mais dans un sanctuaire qui est principalement un sanctuaire hongrois pour la minorité hongroise de Transylvanie. Alors c'était extrêmement bizarre parce qu'on était dans un voyage en Roumanie. Et on arrive dans un lieu où tout le monde parle hongrois, dans un lieu où les drapeaux hongrois ont complètement remplacé les drapeaux roumains, et voilà, tout se fait en hongrois, et même est présent dans la foule le président de la République hongroise. Donc vraiment, on avait l'impression que le pape venait visiter un autre pays que la Roumanie. Et effectivement, c'est un sanctuaire qui est très important pour les nationalistes hongrois, qui en ont fait un petit peu un étendard de leur politique. Et par exemple, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui est un peu le chef de file aussi des populistes en Europe, avait annoncé qu'il viendrait à la messe. Le Vatican avait dit, écoutez, on ne peut absolument pas lui interdire de venir, mais comme simple fidèle, il n'est pas question que, dans un voyage en Roumanie, le pape reçoivent de façon officielle les responsables d'un autre État. Donc étant donné qu'il n'avait pas sa photo avec le pape, il n'est pas venu. Mais c'était quand même ce message très nationaliste qui est un petit peu un refrain dans ce sanctuaire. Le pape en a complètement pris le contre-pied au cours de son homélie pour dire que justement, quand on vient ici en pèlerinage, c'est justement pas pour se refermer, mais justement, quand on se met en marche en pèlerinage, c'est pour s'ouvrir. Il a dit hein, pour ne pas avoir peur de se mélanger. Tout un discours qui justement est le contraire hein, de ce discours populiste, nationaliste, qui est porté par la droite hongroise et puis plus largement les droites populistes européennes. Donc c'est un discours extrêmement important hein, qui, sans cacher d'ailleurs le besoin et la nécessité des racines, il l'a rappelé d'ailleurs dans une autre rencontre juste après, mais c'était de dire on peut avoir un discours sur les racines, mais les racines, ça doit être quelque chose qui nous relie et pas quelque chose qui exclut. Donc c'était un discours totalement nouveau finalement de ce qu'on peut entendre régulièrement sur les racines chrétiennes de l'Europe. Il dit non, c'est pas des racines qui excluent, ce sont des racines qui nous relient et qui doivent nous ouvrir aux autres.
Marie veille et intercède pour que nous ne nous laissions pas voler la fraternité par les voies et les blessures qui nourrissent la division et le cloisonnement, a aussi exhorté le pape François. Merci beaucoup Nicolas Senez d'être venu au micro de Vivante Église pour nous donner un digest de ce voyage en Roumanie. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos autres invités pour continuer ce tour d'horizon, entre autres donc la réaction du Saint-Siège aux élections européennes.
Sure.
Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, tour d'horizon donc de l'actualité du pape François et d'un certain nombre d'églises dans le monde. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous étions en début d'émission avec Nicolas Senez, journaliste pour le journal La Croix à Rome, Philippe Dazébrun est autour de ce plateau, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse et Jean-Miguel Garrigue, prêtre religieux dominicain et théologien. Comme promis, la réaction du Saint-Siège donc aux élections européennes. On imagine que les auditeurs ont en tête ces résultats, au moins pour la France. Le Saint-Siège, j'ai noté deux grandes réactions, Philippe Dazébrun, pour vous lancer. La première, le Saint-Siège s'est félicité du niveau de participation, un motif d'espérance, et en même temps, le pape François, à l'occasion justement d'une conférence de presse dans l'avion pontifical de retour de Roumanie, a lui eu quelques mots à l'égard du populisme. Racontez-nous.
Oui, je crois que dans cette question des élections européennes, il y a, de la part de la parole du pape, quatre points. D'abord le constat, ou les constats, ensuite quelques rappels qu'il donne, des mises en garde, et enfin une exhortation, en quelque sorte, une recommandation. Dans l'ordre du constat, vous l'avez dit, d'abord une forme de joie à voir que la participation s'est accrue. Ça, c'est un point. Voir aussi que...
Jamais enregistré depuis 25 ans.
Absolument. Voilà. Et voir également que les thématiques écologiques, et non pas écologistes, ont été, semble-t-il, bien considérées dans les débats européens aujourd'hui. Et faisant écho à l'encyclique qui fut la sienne, là où date aussi. Donc, il y a là, je dirais, des constats qui... abonde dans le sens du Saint-Siège, ou du moins de la parole du pape. Les rappels, me semble-t-il, sont d'un ordre plus politique, dans le sens où le pape a bien rappelé l'intérêt de la construction européenne, en tout cas les bénéfices que la construction européenne a apporté aux populations du continent. Et également, on vient de le dire à l'instant, le rappel des racines chrétiennes de l'Europe qui sont plutôt fédératrices que exclusives. Mais il y a aussi dans ce discours quelques mises en garde qui ont été données. Mises en garde à l'égard notamment de ces valeurs chrétiennes qui doivent être un lieu de partage et non pas une forme de repli sur soi, d'identification de l'identitaire qui serait l'exclusion de l'autre. La mise en garde aussi du fait que nous sommes dans une situation qui pourrait rappeler les années 30 et la montée de certains populismes, comme on le dit aujourd'hui, mais qui pourraient être identifiés à des fascismes.
Vous citez le pape François, 30. Là
Absolument. Oui.
J'avais pas noté, alors, si vous citez le passage à propos des années 30.
Écoutez, je vous le trouverai tout à l'heure.
D'accord. En tout cas, il s'inquiète de l'avenir de l'Union européenne, se demandant si, là je cite, invitant à ce que l'Europe redevienne le rêve des pères fondateurs, mais se posant la question, ne serait-ce pas la fin d'une aventure de 60 ans ? C'est une parole forte quand même.
Oui, absolument. Donc il y a cette mise en garde-là. Et puis il y a aussi le fait que l'Église a toujours appelé à l'amour de son peuple, mais avec le danger que cette exacerbation de l'amour du peuple peut apporter dans les dérives nationalistes. Hein. Il dit bien que, alors là pour le coup j'ai une citation, que cet amour des peuples, peut aboutir à des déviations, comme l'attachement à des exclusions, à des haines et à des nationalismes conflictuels qui élèvent les murs, voire aboutissent à des racismes et à de l'antisémitisme. Donc on a en même temps, vous voyez, du constat des rappels, des mises en garde, également une exhortation qui est rappeler ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire un tout, mais dans une reconnaissance des sous-parties, en quelque sorte. C'est le principe de subsidiarité. On ne peut concevoir la construction européenne que dans la mesure où elle, certes, renforce les coopérations, mais dans la mesure où les identités particulières sont respectées aussi.
S'il vous plaît, que l'Europe ne se laisse pas vaincre par le pessimisme ou par les idéologies, a exhorté le pape, estimant que l'Europe était attaquée en ce moment, non pas par des canons et des bombes, mais par des idéologies. Jean-Miguel Garry, qu'est-ce que vous diriez sur le sujet ? On en parlait pendant la pause musicale. On a l'impression que le pape François suit une ligne, quitte à exaspérer de plus en plus d'électeurs qui, eux, votent populiste, et on sait qu'il y en a entre autres chez les chrétiens, chez les catholiques.
Le pape voit un danger, et je pense avec énormément de clairvoyance, un danger à long terme pour le devenir de l'Europe. Il formule ses mises en garde de manière toujours très morale, morale au grand sens du terme, qui inclut le théologal, la dimension évangélique. On a l'impression que ce qui manque dans son discours, et c'est ça probablement qui agace, c'est le fait qu'il n'introduit pas une dimension de prudence politique qui est très clairement exprimée dans le catéchisme à propos de l'accueil des immigrés. Et la ligne fondamentale pour un chrétien ne peut être que celui de la générosité à cause du fait que, et c'est un grand élément de doctrine catholique, de doctrine sociale catholique, la terre appartient, Dieu l'a créée et l'a donnée à tous ses enfants. Il y a une destination universelle des biens. Et donc il y a un peu l'égoïsme national, justement. Il avait été condamné dans le maurrasisme. Il ne peut pas y avoir un égoïsme national absolu. Ceci dit, il faut un minimum de prudence politique, car sinon il y a des effets pervers. Que le pape lui-même a constaté et qu'il a formulé au retour de son voyage en Suède, quand il a dit qu'effectivement, il s'était rendu compte que quand on accueillait un peu à tout va, il se formait des ghettos, parce que le corps social n'est pas capable d'assimiler des injections trop brutales de d'immigrés. Donc, ça, c'est de la prudence politique. Il y a une manière de faire, et là, bien sûr, l'Église n'est pas là pour donner des recettes, mais il faut que dans le discours d'un pape, on puisse sentir qu'il tient compte de cela et que son discours moral ou théologal n'est pas, ne télescope pas la dimension rationnelle.
Philippe Dazébrun, à propos des élections européennes, vous vouliez ajouter quelque chose ou non? On parle de la Journée mondiale des migrants.
Non, simplement la précision que je voulais vous apporter par rapport à la référence aux années 30. Le pape aurait fait allusion effectivement à ce qui s'était passé dans les années 30 et notamment en Allemagne lors de sa rencontre des évêques italiens. Voilà. Et je pense que dans... on n'a pas la citation exacte, mais ça a été rapporté. Je pense que l'inquiétude du pape est tout à fait réelle, puisqu'elle est partagée par beaucoup d'intellectuels. Et je vous renvoie notamment au livre qui vient de paraître, qui s'appelle 1938, La récidive, n'est-ce pas, qui montre bien qu'il y a, je dirais, une ambiance et donc une angoisse de ce temps de la répétition ou la réplique des années 30.
Voilà, et c'est pas rien de le dire. Que des intellectuels le disent, c'est une chose, mais que le pape François aille jusqu'à le mentionner, c'est probablement signe qu'il faut prendre cela très au sérieux. On va parler maintenant de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, va être déplacée, puisqu'elle est en général célébrée début janvier, et maintenant elle sera célébrée fin septembre. Un tout petit mot d'histoire à propos de cette journée. J'ai cru comprendre qu'elle avait été créée après la Première Guerre mondiale, parce que le pape Pie X avait été très touchée par le drame de millions d'Italiens émigrés à l'étranger, journée qui s'est de plus en plus généralisée jusqu'à ce que Jean-Paul II, en 2005, en fasse une journée célébrée par toute l'Église universelle. On n'a pas l'intégralité du texte pour cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, mais là aussi le pape François a eu quelques déclarations. Là on peut dire c'est dans le top 5 des leitmotivs du pape François depuis son élection. Qu'est-ce que vous avez relevé comme point important, Philippe Dazébrun?
Je dirais en la matière, trois points. Le premier, c'est d'abord ce que la question des migrants révèle de nous-mêmes. Le pape insiste beaucoup sur le fait que on ne juge une société ou la réalité d'une société que dans la mesure où elle fait cas, ou pas de cas du tout, de ceux qui sont les plus petits d'entre nous. Ça, c'est le premier point. Et en cela, il fait appel à une forme d'introspection que sont nos peurs. Et finalement, ces peurs révèlent, pour la plupart du temps, notre façon de penser et notre façon d'agir. Donc il nous met en quelque sorte là aussi en garde sur nous-mêmes, parce que par rapport aux migrants, il y a un regard que nous portons qui est aussi une réflexion, dans le sens du miroir, en quelque sorte, que ces migrants nous tendent à nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Donc, à partir de là, qu'est-ce que nous devons faire? Le pape donne quatre verbes par rapport aux migrants sur lesquels il insiste.
Voilà, ces quatre verbes qui sont comme des leitmotivs. Hein, c'est
absolument. Charmant. Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Il ne dit pas assimiler. Hein, bien compris. Il dit intégrer. C'est-à-dire que l'appel qui est le sien est qu'il faut que l'étranger qui est en situation d'accueil chez nous doit garder une part de lui-même. Il ne s'agit pas de renoncer à lui-même. Il apporte une richesse. C'est ça la force du discours du pape. C'est que le migrant qui vient en Europe n'est pas un moins, mais un plus.
C'est ce que j'allais utiliser comme
un
expression.
Plus. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut faire. C'est-à-dire accueillir le migrant comme cet autre qui peut nous enrichir dans une globalité qui est à construire ensemble.
Philippe Désir, si je peux me permettre, le pape François va même encore plus loin, puisque plus qu'un plus, il dit qu'il faut y voir là un signe des temps. Le migrant, et spécialement ceux qui sont les plus vulnérables, nous aide à lire les signes des temps.
Voilà, absolument, parce qu'il nous aide à lire aussi quelque chose de nous-mêmes, à l'instant où nous vivons. Et il ajoute aussi autre chose, c'est que il met en exergue ce que doit être, par là même, le développement le développement véritable, ce qu'il appelle le développement véritable, c'est-à-dire prendre en considération l'homme dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, comme Jésus est venu dans ce monde, non pas pour rentrer dans la logique de ce monde, mais au contraire pour la transformer, pour lui donner un autre sens. Et finalement, le pape nous appelle à imaginer un développement qui soit dans l'accueil et qui soit centré sur l'homme, développement intégral de l'homme. Voilà pourquoi il insiste beaucoup sur l'idée de cette intégration qui respecte la totalité de celui qui vient à nous.
Voilà, le pape François qui a une expression, il ne s'agit pas seulement de migrants, une expression qui revient, il ne s'agit pas seulement de migrants. J'ai noté aussi cette question-là, c'est une sonnette d'alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l'on continue à concéder du terrain à la culture du rejet. Et un peu plus loin, le problème n'est pas tant d'avoir des doutes et des craintes, le problème, une invitation en tout cas à la conversion, je ne retrouve pas, mes citations. On s'est dit avant cette pause qu'on allait parler un petit peu du Venezuela. On en a souvent parlé à cette antenne. On essaye d'avoir un œil sur ce pays, sur cette église traversée par une situation politique terrible, où, je le rappelle, Nicolas Maduro fait sévir une terrible dictature. Le pays s'enfonce dans une crise économique absolument épouvantable. Juste un chiffre, on en cite de temps en temps. En 2009, le FMI pense que le taux d'inflation sera de 10 millions de pourcents, 10 millions de pourcents au Venezuela. En tout cas, en 2018, il avait atteint 1 300 000 de pourcents. Voilà, on manque de tout, on manque de nourriture, on manque de des premières nécessités pour se soigner. Et l'Église, une fois de plus, résiste et est en première ligne auprès du peuple. Philippe Dazébrun, que dire des dernières déclarations de cette Église?
Oui, d'abord, vous faites bien de rappeler les choses, mais je pense qu'il faut insister aussi sur le drame humain que représente cette dictature. C'est-à-dire qu'on ne peut, je crois, juger de la pertinence de l'Église sur place que dans la mesure où on voit que ce pays est en train de crever, littéralement. C'est-à-dire qu'on a quand même une hémorragie humaine. On a 4 millions de Vénézuéliens qui sont partis.
Des dizaines de milliers de personnes qui passent la frontière chaque semaine.
Avec des risques sanitaires colossaux. Enfin, on ne peut pas s'imaginer. Et face à cela, des manifestations qui sont tout à fait légitimes et qui sont lourdement réprimées, avec des centaines de blessés et puis des outrances, mais qui sont de l'ordre du scandale, comme par exemple intervenir dans une église à San Cristobal à moto. Enfin, on ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, dans quel monde nous sommes là-bas. Nous sommes aux antipodes de la civilisation. Donc, si vous voulez, l'Église...
Les femmes accouchent sans soins, par
absolument,
exemple.
Absolument. C'est 70%,
un signe fort. Elles accouchent à l'hôpital sans aucun soin.
Oui, voilà. À la frontière colombienne, 70% des femmes accouchent là-bas et dans des conditions épouvantables. Donc, on est là devant un drame humain qui appelle finalement un cri de conscience. Et l'Église ne fait que porter ce cri de conscience-là et le porter à la face du monde avec, bien évidemment, des condamnations de la répression, condamnations de la dictature, de la séquestration de parlementaires. On a levé l'immunité parlementaire. Donc, il y a là un droit de parole qui est complètement bâillonné et l'Église est au service des pauvres. Voilà ce que dit l'Église vénézuélienne. C'est-à-dire que si l'Église, c'est le service des pauvres, eh bien oui, nous sommes dans l'opposition.
Et derrière la résistance politique, derrière cette figure donc du nouveau président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido.
Absolument.
Voilà, qui est le 5 janvier dernier, qui mène la fronde dans ce pays. On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour laisser un petit peu plus la parole au père Jean-Miguel Garrigue, qui cette fois aura un bon micro. Je m'excuse auprès de lui parce que j'avais oublié qu'on avait un micro qui était défaillant. J'espère qu'on a entendu quand même ses propos. On parlera avec lui entre autres de la récente nomination du nouveau président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Ça sera surtout l'occasion de parler un peu de ce dialogue islamo-chrétien voilà, qui n'est pas sans poser de questions à un certain nombre de fidèles. Et on reviendra sur les dernières nouvelles de la lutte de l'Église contre la pédocriminalité.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est donc, pour rappel, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Autour du plateau, Philippe Dazébrun, professeur d'histoire contemporaine à l'Institut catholique de Toulouse, et Jean-Miguel Garrigue, prêtre religieux dominicain et théologien. Et on était au début de l'émission, comme à chaque fois, avec Nicolas Senès, correspondant du journal La Croix, à Rome. Quelques nouvelles encore de l'Église universelle, et non des moindres. On va essayer de prendre un peu plus de hauteur et de profiter de votre présence, Jean-Miguel Garrigue, pour avoir peut-être une analyse plus de fond. J'ai choisi de retenir donc la nomination du nouveau président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Monseigneur Ayuso Guixo, qui en était le secrétaire pendant de longues années, qui est un évêque espagnol, qui a travaillé donc dans l'ombre du cardinal Torrent, décédé l'été dernier, grande figure, on va dire, de la diplomatie vaticane, dans le dialogue interreligieux et particulièrement donc le dialogue avec l'islam. Je n'ai pas lu beaucoup de commentaires à l'égard de cette nomination, Monseigneur Ayuso Guixo, mais je me disais que c'était l'occasion, après le passage à cette antenne de Monseigneur Fitzgerald, peut-être que les auditeurs ont suivi l'ancien président, presque le cardinal Torrent, de ce conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, d'avoir quelques lumières sur ce sujet. Un certain nombre de chrétiens et de catholiques ont des interrogations sur certaines nominations. On dit qu'il y a des figures, certains sont plus ou moins, flexibles sur le dialogue avec l'islam. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette lecture parfois politique des nominations, Jean-Miguel Garrigue?
Alors, l'élu, en l'occurrence, a une double filiation. D'une part, son milieu d'origine, qui est le PISAI, l'Institut des Pères Blancs pour les études islamiques à Rome, qui a depuis de longues années une compétence tout à fait reconnue et en même temps des options extrêmement iréniques, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de sa lecture de sa compréhension de l'islam.
Alors, irénique, ça veut dire quoi?
Irénique, ça veut dire lénifiante, enfin extrêmement, plutôt positive, etc., pour atténuer tout ce qui pourrait être négatif et mettre en valeur tout ce qui peut être positif. Alors, cette origine, évidemment, a de quoi inquiéter certains. L'autre, c'est qu'il a travaillé auprès du cardinal Torrent et que le cardinal Torrent a été courageux dans ses voyages dans les pays du Golfe, etc., en Arabie Saoudite, pays du Golfe et tout ça. Il a toujours réclamé la réciprocité, par exemple, au niveau des droits de
pratiques religieuses.
Donc, ce qui est toujours très courageux de faire ça dans des pays qui la pratiquent si peu, cette réciprocité. Qu'est-ce qui va l'emporter si la ligne, disons, plus une diplomatie vaticane classique du cardinal Torrent ou la perspective du PISAI? On verra. C'est sûr que le PISAI a une attitude de dialogue à tout prix, qu'on trouve d'ailleurs souvent chez les catholiques, que ce soit, moi je suis engagé dans le dialogue avec les juifs et d'autres, et j'ai été beaucoup avec les orthodoxes et tout ça. On a une tendance parfois à tellement dialoguer que l'empathie devient indifférenciée de celui avec qui on dialogue, ce qui n'est pas un véritable dialogue, parce qu'un dialogue suppose qu'on soit deux et pas...
Mais Jean-Michel Garrigue, n'est-ce pas là le rôle de l'Église de montrer l'exemple du dialogue, quitte à être pris pour des naïfs?
Oui, bien sûr. Il faut le faire. Mais faut-il le faire en s'aveuglant, par exemple, pour l'islam, sur un certain nombre d'éléments qui sont là et que nous savons parfaitement être vrais?
Par exemple,
djihad, la situation de la femme, énormément de choses. Et puis sur des points religieux, alors profonds, qui font qu'il y a une grande différence entre l'islam et la tradition biblique, la révélation biblique. De laisser entendre que l'islam, certes, n'est pas la révélation, mais c'est quand même une révélation, donc d'une certaine manière, ça pourrait venir compléter, etc. C'est tout ça, c'est des jeux de l'esprit et qui ne reposent sur rien de... Alors, il y a de bons sentiments, ça c'est évident, il y a de bons sentiments, ça procède de bons sentiments. Le problème, c'est que les bons sentiments doivent être confrontés aussi aux réalités.
Voilà, donc ça c'est pour le dialogue avec l'islam, en tout cas un éclairage du père Jean-Miguel Garrigue. Voilà, on s'est dit que eu égard à votre ancienneté et vos nombreuses publications, il pouvait être bon d'avoir une parole libre sur le sujet qui peut compléter d'autres interventions. Et la deuxième chose dont on voulait parler, c'était donc la lutte de l'Église contre la pédocriminalité et entre autres réagir. Alors il y a eu de différentes actualités, la publication d'un motu proprio récemment. C'était au mois de mai, à l'adresse de toutes les, un texte en fait à l'adresse de toute l'Église universelle pour expliquer comment ces affaires doivent être gérées, avec deux mesures phares, l'obligation juridique de signalement, et désormais les évêques et les supérieurs d'ordre religieux ne sont plus protégés par leur statut quant à leurs éventuels agissements délictueux. J'ai noté donc entre autres comme beaucoup l'appel aussi de la commission Sauvé, cette fameuse commission qui a été nommée à la demande de l'Église, appel à témoins. Voilà, le travail de la commission commence par un appel à témoins. Qu'est-ce que vous avez comme réaction sur ce premier sujet ? Premier point.
Alors sur la question du signalement, il faut quand même rappeler un élément qui est présent dans le texte mais qui n'est peut-être pas assez rappelé. C'est que ça ne concerne pas le secret de la confession. Ça ne peut pas concerner le secret de la confession. C'est-à-dire, si comme prêtre, je reçois une confession de quelqu'un qui a commis des abus, je n'ai pas le droit de le dénoncer. Et il faut faire très attention parce que le secret de la confession commence à être réellement attaqué par les plus frénétiques des lanceurs d'alerte aujourd'hui.
En l'occasion, donc la sénatrice Catherine Deroche, qui est donc à la tête de la mission d'information du Sénat sur les infractions sexuelles, on en parlera dans un instant, dans une interview au journal La Croix, laisse entendre qu'il faudrait lever dans certaines circonstances le secret de la confession et l'objection de conscience.
Ça a été demandé en Australie, c'est demandé maintenant en France. Alors attention, j'aurais voulu que ce soit peut-être plus nettement rappelé, car dans le secret de la confession, théologiquement, il est fondé sur ceci. Ce qui m'est dit en confession ne m'est pas dit à moi, c'est dit à un ministre, c'est-à-dire à Dieu. On est là qu'en tant que ministre, c'est pas une confidence. Une confidence, on peut la lever. Dans certains cas, effectivement, une confidence, même à un prêtre, peut être levée. Mais dans le sacrement de la confession, là, le prêtre, je dirais, disparaît dans son élément humain. Il n'est plus que signe du fait que c'est Dieu qui reçoit et qui pardonne.
Ce qui peut être difficile à comprendre quand on n'est pas croyant, en l'occurrence.
Je le comprends très bien, mais à l'Église de défendre quelque chose. Et je vous assure que mon expérience, j'ai souvent parlé de ça comme ayant été aumônier en hôpital public, et parlant avec des malades de toutes origines en France, les Français ne croient absolument pas à la chasteté sacerdotale, mais ils croient beaucoup au secret de la confession. J'ai eu des témoignages incroyables. Donc, qui n'étaient pas pratiquants.
Donc l'appel de la commission Sauvé, donc, c'est qu'on n'aille pas trop loin, c'est ça ?
Qu'on fasse attention, d'une part, au secret de la confession, d'autre part aussi que l'appel au signalement peut devenir un appel à la délation.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, ça ouvre une boîte de Pandore dans laquelle vous avez le phénomène, nous sommes dans des domaines de sexualité, et vous avez un phénomène quand même que tout prêtre en paroisse connaît, par rapport à des femmes et aujourd'hui aussi par rapport à des hommes, parce que avec une certaine diffusion de l'homosexualité, on le trouve aussi, des phénomènes d'hystérie, de personnes qui ont elles-mêmes des désirs sexuels qu'elles ne veulent pas reconnaître et elles les projettent sur quelqu'un, par exemple un prêtre, et se sont convaincus, sincèrement convaincus, mais sans réalité. Donc donner une possibilité d'une écoute irresponsable, parce que c'est ça, c'est que dans cette commission, ce n'est pas comme quand on va voir un procureur de la République. Quand on va voir un procureur de la République, on assume la responsabilité de sa plainte, de sa dénonciation, etc. Et si jamais on est en train de tricher, on en paye les conséquences. Devant une commission de type écoute compassionnelle, le danger, c'est que ça se transforme dans un reality show. Alors vous me direz, c'est secret, ça ne va pas être rendu public et tout ça. Oui, mais enfin, quand même, il y a une commission qui vous écoute. Et ça peut, des tempéraments hystériques peuvent trouver un certain bonheur à se déshabiller, à se raconter, à imaginer telle ou telle chose.
Etc. Mais plus que ça, je vous ai entendu parfois hors antenne parler de risques de dérive un peu maccartiste autour de ces affaires de pédophilie dans l'Église. Est-ce que vous pouvez expliciter cette pensée?
Tous ces moments d'appel à la délation, alors on peut prendre les cas les plus odieux, les dénonciations à la Gestapo en France pendant l'occupation, McCarthy, etc. Bien sûr que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que d'une certaine manière, on se substitue. C'est comme le problème de ces procès médiatiques. On l'a vu pour l'affaire Barbarin. On se substitue à la justice et on crée un climat comme il s'est créé au moment du procès de Lyon, qui aurait dû être délocalisé. C'est évident qu'il fallait pas juger Barbarin à Lyon, dans le climat effervescent qui s'était créé. Et si on ne le fait pas, on risque d'avoir une justice très conditionnée par une sorte de jugement médiatique ou par le biais de commissions et de choses comme ça.
Pour finir, donc cette mission d'information du Sénat sur les infractions sexuelles, Catherine Deroche, donc en est à la tête. Les conclusions ont été rendues satisfaites pour l'Église. Elle le dit dans une interview, entre autres, au journal La Croix, laissant entendre que s'il y avait eu longtemps une omerta, cette omerta aussi était partagée par d'autres institutions, éducation nationale, monde du sport, milieu de la culture. Et puis elle fait un point aussi sur la situation chez nos frères juifs et musulmans. Une interview à lire. Merci beaucoup messieurs d'être venus au micro de Vivante Église pour ce tour d'horizon. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.